Bonjour et bienvenue au podcast Histoire de s'en jaser. Cette semaine, on fait la deuxième partie du balado sur l'histoire de la chute Montmorency. Donc avec moi, c'est les mêmes personnes que la semaine dernière et je me représente au cas où vous aviez oublié qui j'étais, Rose Tremblay-Fontaine. Donc je suis avec Maïté qui est notre invitée aujourd'hui et l'animatrice avec moi, c'est Frédéric Boudreau.
Bonjour, bonjour!
Avant de commencer et de parler un peu de l'histoire, en fait de commencer l'histoire proto-industrielle de la chute, on voulait revenir sur quelques éléments du dernier épisode. Le premier d'entre eux, si vous avez cherché une chanson des Cowboys fringants avec Robert Gifford puis Apothicaire, sachez que c'est normal que vous l'ayez pas trouvé. C'est que Maïté connaît pas ces grands classiques québécois, en fait.
J'aimerais ça me défendre. Parce que c'est la chanson très connue de Louis Hébert. Mais c'est un pionnier apothicaire. Et Robert Gifford est un pionnier apothicaire.
Il y a un lien. Il est loin, mais il y a un lien.
Okay. Ouais, il y a un lien, donc, mais quand même, à tout le monde, je m'excuse.
Mais elle coupa de Maïté ici. On peut passer maintenant à la maladie de Wolf,
en fait. Oui, cette mystérieuse.
Donc, est-ce que c'était la syphilis? Est-ce que c'était la goutte, la gangrène ou simplement l'alcoolisme? Peut-être que ces 3-4 maladies-là étaient dans le lot, mais en réalité, ce dont souffrait Wolf, c'était de dysenterie, donc de diarrhée explosive et saignante, mais également de rhumatisme, donc il avait mal aux articulations. C'était plus drôle nos hypothèses, mais bon, on va faire avec la vérité historique. Des fois, c'est pas de même, puis c'est une histoire de diarrhée, hein.
Oui.
Bon, maintenant qu'on a éclairé ces points-là, on va pouvoir vraiment commencer avec l'histoire proto-industrielle de la chute. Donc, Maïté, là, si je me trompe pas, l'histoire proto-industrielle, c'est vraiment ce que tu veux faire à la maîtrise. C'est ça ton intérêt, ton focus principal.
Ben, j'aimerais ça. En fait, je suis à la début de la maîtrise. Donc, là, je dis que je veux faire ça sur l'histoire proto-industrielle de la chute et de la famille qui était, en fait, habitait le manoir avait la chute à cette époque-là. Mais, en fait, pourquoi on parle d'époque proto-industrielle premièrement? Au début, moi, je voulais être pré-industrielle, mais c'est sous la direction de Monsieur Fison, donc Donald Fison, qui me dit « on va faire ça proto-industriel ». Je peux pas encore trop approfondir parce que c'est un thème qui a été utilisé dans les années 80.
C'est quoi la différence entre proto et pré?
Proto, c'est avant-pré.
OK.
Donc, on n'est pas encore avec les mêmes dynamiques d'une histoire pré-industrielle, donc une industrialisation qui s'installe. C'est avant ça. Donc, en fait, puis on parle, pourquoi on parle de proto-industriel, quel genre d'activité il y avait à la chute Montmorency, outre le manoir et Mathilde Robin, la Dame Blanche? Eh bien, c'était la scierie qui était au pied de la chute, donc une scierie de coupe de bois. Et puis, c'est un endroit stratégique pour développer ce genre d'activité. Pourquoi? On est à côté du fleuve Saint-Laurent, puis on est à côté de la chute Montmorency, donc on peut s'approvisionner en eau pour vraiment faire rouler les scieries. Puis ça, c'est en fait, c'est deux Canadiens qui ont construit la première scierie. Mais c'est vraiment sous Peter Patterson et son, en fait, qui était associé à l'époque avec Henry Osborne, donc deux Britanniques, qui voulaient en fait s'installer à Québec, à Montréal, pour faire de l'argent. À l'époque, là, l'époque proto-industrielle, on parle vraiment, là, on est en 1810, donc on est vraiment là où la Grande-Bretagne a besoin de bois à Québec, à Montréal. Et puis, vraiment, c'est là qu'il va y avoir un genre de boom pour l'exploitation forestière. Tout ce qu'on connaît, en fait, tu sais, bûcherons, draveurs et tout, ça a des racines, là. On n'est pas encore dans les camps de bûcherons qu'on connaît, là, des années 1920, 1940. On est vraiment avant ça. C'était d'autres stratégies, d'autres types d'exploitation. C'était surtout, en fait, on achetait des seigneuries, qu'on appelait des seigneuries d'exploitation. Puis on faisait vraiment un genre de réseau d'exploitation, mais avec ses propres terres. Et puis, en fait, c'est ça que Peter Patterson a fait à la chute Montmorency. Donc, à un moment donné, il s'est dissocié de son associé qui était Henry Osborne, puis il a vraiment fait sa propre compagnie. Il habitait à Québec, il avait sa série au manoir, ben, près du manoir Montmorency. Donc, faut pas oublier, le manoir Montmorency est encore là, mais c'est deux choses différentes.
Fait que le manoir, il est pas sur le même terrain que la série, dans
non,
le fond?
Non, la série était vraiment, ou la grève, donc, au bas. Et puis, elle n'était pas directement à la chute. Habituellement, quand on parle de série, de coupe de bois, on se dit « OK, c'est collé à la chute », mais non. En fait, l'eau de la chute était amenée du haut par le bas, en suivant les falaises. Donc, en fait, là, puis peut-être qu'on pourrait mettre en annexe une image là, qui pourrait plus illustrer, parce qu'on appelait ça une conduite d'eau. Donc, au début, elle était en bois, puis par la suite, elle a été transformée, mais vraiment, du temps de Patterson, là, c'était une sorte d'amener de dalle de bois qui amenait l'eau du haut de la chute, passait par la falaise et utilisait vraiment la pente de la falaise pour créer une force hydraulique pour faire rouler les moulins assis. Donc, c'était vraiment ça l'installation au début. C'était un moulin, une dalle d'amener. Et puis, donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé l'activité à la chute. Puis Peter Patterson, en fait, plus j'en apprends sur cette personne-là, plus il m'étonne. Parce que vraiment, il a commencé à s'installer ici, il était associé, mais à la fin de sa vie, en fait, là, il était tant dans l'exploitation forestière que dans la politique municipale du Québec. Il avait commencé une exploitation minière, mais aussi il avait commencé vraiment à s'impliquer dans les chemins de fer. Donc, il est décédé, ce monsieur-là, puis vraiment, dans les journaux même, dans les périodiques français, il a été décrit comme quelqu'un qui a contribué à la société, sans regard à la religion, parce qu'il était protestant. Puis là, c'est là que ça devient intéressant, parce que Peter Patterson, bon, quand il a fait plus d'argent, il s'est installé au manoir Montmorency, dans les années environ, là, 1818. Puis il était dans une bulle franco-catholique. Il était à Beauport. Beauport était catholique, à fond la caisse. Puis, encore une fois, on a une genre d'élite anglaise qui est au manoir Montmorency. Donc, le manoir Montmorency ressort un peu du lot, encore une fois, parce que là, Peter Patterson, quelques années plus tard, va acheter la seigneurie de Beauport aux enchères. Donc, en 1844, en plus de toutes ses exploitations, ses terres, il devient seigneur de Beauport.
Il achète
au Juchereau.
OK, parfait.
Aux enchères, et là, ça devient très compliqué dans pourquoi, comment... et tout, mais il achète.
Puis en étant propriétaire de la seigneurie oui. De Beauport, est-ce qu'il devient propriétaire de la chute à ce moment-là, puis de tout ce qui est autour, ou est-ce que la...
Ben ça, c'est une excellente question. Je veux l'approfondir.
OK.
Parce que je le sais pas. À qui appartient la chute? C'est vraiment là qu'il y a des conflits. En fait, dès qu'il commence à avoir des exploitations à la chute, c'est une question qui se fait poser. Parce que de l'autre côté de la chute, donc du côté, là, aujourd'hui, Bois-Châtel, Beaupré, ben c'était au séminaire de Québec.
Tintin.
Ouais, vraiment. Puis c'est à cause du séminaire de Québec qu'on a encore un corpus de sources fantastiques sur la situation. Pourquoi? Le séminaire conserve tellement bien ses archives. Donc, vraiment, quand je suis allée fouiller pour la première fois en 2019, je suis tombée sur quelque chose. Puis au début, j'ai pas trop compris sur quoi je suis tombée. On s'entend que je commençais à fouiller, là. Puis je suis tombée sur plein d'images de la chute séparée par une ligne. Puis j'étais là, ben, OK. Mais sur chaque image, la ligne changeait de place. Des fois, elle était dans le milieu de la chute. D'autres fois, elle appartenait complètement à la seigneurie. Ben, en fait, la seigneurie de Beaupré. D'autres fois, non. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'ils se sont traînés plusieurs fois en cours pour savoir à qui appartenait la chute. Du moins, c'est ce que je pense. Puis j'aimerais vraiment ça approfondir ça, parce que là, on rentre dans les technicalités de deux seigneurs qui veulent leurs ressources de leur seigneurie, qui est l'eau de la chute, qui est égale à de l'argent. Peter Patterson fait de l'argent avec l'eau de la chute. Puis, tu sais, par exemple...
Mais il n'utilise pas directement le pouvoir de la chute.
Non, mais est-ce que c'est à cause de ça? C'est pour ça qu'il est conseillé à seigneurie au pied, puis pas en haut. Mais tu sais, ou pourquoi, ou même peut-être qu'il y avait un moulin en haut de la chute, mais a été sûrement complètement détruit par d'autres installations. Donc, on est en train, en fait, avec mes collègues, d'essayer de retrouver peut-être ce moulin-là qui pourrait peut-être nous expliquer plus qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, quand Patterson a acheté la seigneurie, le manoir de Montmorency est devenu le manoir seigneurial de Beauport.
Hmm.
Donc, c'est devenu un autre centre. Ça change la dynamique, tu sais, socio-culturelle de Beauport.
Ouais, le centre, ben, étant donné que le centre était plus vers où est Robert Giffard actuellement, fait qu'il a quand même fait un gros changement dans la seigneurie de plusieurs kilomètres, même.
Ouais, puis tu sais, un autre exemple, en fait, de ces changements-là que je trouve vraiment très fascinant, c'est si vous passez aujourd'hui, actuellement, à côté du manoir, vous allez voir une chapelle brune avec une toiture à refaire qui est à vendre. C'était un ancien restaurant et avant ça, c'était une chapelle qui a été une chapelle catholique. Mais avant ça, c'était une chapelle protestante, anglicane.
Oh! Puis c'est les Patterson qui l'ont fait construire?
Ben, d'après le ministère de la Culture, en fait, là, dans leur document, la conservation du patrimoine et tout, ils datent la chapelle de 1900-1910. Mais quand tu regardes les testaments de la fille de Patterson, elle parle de cette chapelle-là, qui était clairement, en fait, de façon logique, la chapelle pour Patterson et sa famille,
mm-hmm.
qui n'était pas dans la même bulle que toutes les franco-catholiques de Beauport. Parce qu'en fait, du moment Montmorency, on voit l'église de Beauport. Mais Patterson avait besoin d'une autre église.
Mm-hmm.
Donc, il y a vraiment une chapelle privée. Là. Donc, on est vraiment dans une sorte de bulle que je trouve, en fait, qui apporte beaucoup de questions, beaucoup de curiosités, mais qu'on n'a pas de réponse encore. Encore plus qu'on arrive à la génération de la fille de Peter Patterson, Mary Patterson, qui a longtemps été appelée Mary Jane Patterson parce qu'il y a une tavernière de Beauport qui s'appelait Mary Jane Patterson.
Ah.
Puis les historiens les ont confondus.
Oops.
Mais c'est pas les mêmes personnes. Nous, on parle de Mary Patterson, fille de Peter Patterson et de quelqu'un d'autre. Mais qui?
On sait pas c'est qui sa mère.
Bonne question. On est encore dans du drama de Bridgerton.
Oh.
On peut le ramener. Ramenons-le parce que Peter Patterson n'a jamais été marié. Mais avait une fille et c'était sa fille. Vraiment, là. C'était pas un enfant illégitime qui était comme caché et tout, là. C'était sa fille, Mary
c'était
Patterson.
Pas, est-ce qu'elle avait été adoptée ou comme... Tu sais, est-ce que c'est comme un acte d'un mécène qui a vu une petite fille pauvre dans la rue puis s'est dit « Parfait, t'es la mienne maintenant? »
Ben, en fait, là, dans les portraits, ils se ressemblent vraiment beaucoup.
OK.
On a un portrait de Mary Patterson, puis elle a les traits de son père. Mais, peut-être. Tu sais, on dit ça, là, mais tu sais, des fois...
Mm-hmm.
Mais on le sait pas, en fait, puis j'ai tellement essayé de retracer la jeunesse de Mary Patterson à Québec, parce que, tu sais, Peter Patterson habitait à Québec,
mm-hmm.
mais pour l'instant, il y a rien. Pour l'instant, je crois un jour trouver quelque chose sur Mary Patterson, mais ce qu'on le sait, c'est qu'elle s'est mariée avec un des employés de Peter Patterson. Donc, okay. Elle s'est mariée avec le bras droit, finalement, de Patterson, qui était un Ontarien, George Benson Hall.
La trahison.
Ben, puis en fait, durant le temps que Patterson est encore en vie, là, je vais l'appeler Pete, je suis désolée, je l'appelle c'est Pete. Correct. Fred et Pete, donc on comprend ma logique ici. Et Pete, en fait, quand il vivait au manoir, sa fille habitait près de chez lui, une maison qui n'existe plus aujourd'hui, et pour des raisons... La CEPAC ne me permet pas de vous dire où elle est, cette maison-là, pour l'instant. On a trouvé...
On veut savoir!
Dans quelques années, ma chère.
Dans quelques années, on va aller faire la visite de la CEPAC juste pour savoir où était la maison.
Ouais.
Mais sûrement proche du manoir, là, autour, dans cette région-là.
Ah! Non, oui. Près. Oui. Oui, elle était près
du manoir. Sur le territoire de la CEPAC.
Elle est encore sur le site de la CEPAC aujourd'hui. Tu sais, on a trouvé les fondations.
C'est ce que je me disais. Je pense pas que la CEPAC peut aller fouiller chez les gens.
Dans le jardin des gens.
Ouais, on aimerait bien ça aller cogner chez eux et dire « Excuse-moi, toute ta piscine, ta maison. » Okay.
C'est ça. Donc, sur le terrain de la CEPAC, on sait pas trop où. Mais donc, finalement, Mary Pat, c'était la voisine de son père.
Oui, oui. Tu sais, fait que donc on voit encore que papa voulait que Sa petite fille reste sur le terrain. Mm-hmm. Puis elle habitait dans une maison confortable. Là. C'était pas une maisonnette. Là. C'était une maison. Une belle maison. Okay. Puis au décès de Patterson, parce que ce cher bonhomme a travaillé jusqu'à sa mort, quand même, et est décédé en 1851. Puis quand il est décédé, son testament a quand même fait polémique, de ce que j'ai compris, parce que dans son testament, il marque noir sur blanc qu'il veut tout céder à sa fille et non à son mari.
Ah, d'accord.
Mais on est en 1851. Et Mary Patterson est mariée à George Benson Hall, qui était le bras droit de son père dans la seigneurie, dans l'industrie, qui était lui aussi homme d'affaires.
Mais là, c'est vraiment Mary Pat qui hérite de tout.
C'est une bonne question.
Mais en théorie.
En théorie, tu sais, dans le testament. Mais là, revendiquer, est-ce que le testament est correct? Est-ce qu'on peut le prendre en considération? Tu sais, il y a eu vraiment, là, de ce que j'ai compris, des longues démarches. Puis, il y a quelques temps, j'ai trouvé dans un périodique, quand même plusieurs années après la mort de Patterson, père, un « OK, là, Mary Patterson a hérité, finalement. »
Mais c'est qui contestait le testament? C'est Benson Hall?
Oui. Ou d'autres associés de Patterson. Tu sais, je peux pas croire... Tu sais, il faut s'imaginer, là, Peter Patterson a construit une carrière ici, a fait affaire avec les Price, avec, tu sais, toutes les grandes familles, les grands industriels de l'époque, amis avec les anciens maires de Québec, donc vraiment, là, quelqu'un qui était dans la communauté. Et quand le bonhomme est décédé, il a tout donné à sa fille, qui était une femme mariée. Moi, je me pose des questions. Puis c'est pour ça aussi que je veux peut-être pousser là-dessus. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que de Mary Patterson, tu sais, dans sa jeunesse, c'était difficile de la retrouver. Ben, dans sa vie, j'ai trouvé une lettre écrite par Mary Patterson en ce moment. Une.
Puis on parle pas d'elle vraiment dans les journaux non plus.
Ben, on en parle beaucoup. À une époque en particulier, c'est quand elle a demandé une séparation de biens avec son mari.
Oh.
Fait que là, on rajoute... Oui, oh, on rajoute une couche, là. On rajoute
non,
une...
on n'est pas dans Bridgerton, on est dans Jane Austen, là. On est...
Ouais.
Ouais, on est... Ouais. Dans du vrai drama d'époque, là. C'est pas du drama, « Ah, j'ai embrassé telle personne, là. »
Ouais, puis mon corset, je l'ai commandé chez Shane, là.
Non, non.
Sur Shane. Excusez.
Mais, non, non, c'est quelque chose de sérieux, là, quand même.
Oui, ben... Puis là, en fait, pour rajouter, en fait, une couche de mystère et de complexité à tout ça, c'est que la séparation de biens a vraiment été mentionnée plusieurs fois dans les journaux. Bon, la dame Mary Patterson va, tu sais, passer en cour contre George Benson Hall pour la séparation.
Contre son mari.
Oui, puis là, tu sais, la séparation de biens, juste mentionner, il faut pas voir ça comme un divorce. Le divorce, c'était impensable à l'époque, là, donc malgré tout, c'était possible d'avoir des séparations. Il y avait deux types de séparations possibles. Une séparation de biens, qui était une séparation plutôt économique. Donc souvent, là, une séparation de biens, on voyait ça chez les marchands, chez une classe supérieure, avant une faillite. Donc, c'est quelque chose de possible. Donc, si, par exemple, on voyait que le mari allait bientôt aller en faillite, la femme allait demander une séparation de biens pour protéger ses biens pour ses enfants. Donc, c'est pas une émancipation féminine, c'est une protection matérielle pour la future génération. Puis, d'après moi, c'est ça qui s'est passé avec Mary Patterson et George Benson Hall, malgré le fait qu'on n'a pas la conclusion de cette séparation-là. Pourquoi? Tout, en fait, les conclusions de cette séparation-là a brûlé avec le palais de justice.
Ah, ben oui.
Donc, mystère et boule de gomme pour l'instant.
C'est peut-être là, en fait, qui contenait la vraie maladie du général Wolfe.
Oui, qui est partie dans les flammes. Donc, le seul test sanguin, en fait, que James Wolfe, on a pu récolter au plein.
Dans le palais de justice.
Mm-hmm. Il a brûlé. L'histoire. Sous la musique de Taylor Swift.
Probablement.
Remix à la Bridgerton.
Sincèrement, oui. Violon, violoncelle.
Puis, mais pour revenir, dans le fond, tu disais qu'il y avait la séparation de biens qui était un type de séparation. Puis tu disais qu'il y en avait une autre aussi.
Oui. la séparation de corps, qui est complètement différente. Donc, la séparation de corps, c'est vraiment, ça le dit, séparation de corps. Donc, les liens du mariage ne sont pas brisés, mais la femme a le droit d'habiter à quelque part d'autre de son mari. Donc, ces cas-là, c'est vraiment plus quand on a un mari violent, un mari alcoolique, et que la femme a les moyens et l'entourage d'aller en cour contre son mari. C'est pas tout le monde qui pouvait faire ce type
non, de démarche. Non, j'imagine que c'est pas arrivé souvent.
Non, mais il y en a. Puis il y a des belles études là-dessus pour vraiment voir quels sont les cas. Puis majoritairement, c'est des femmes entourées. Parce qu'il faut avoir des témoins, il faut avoir des pièces, et puis il faut avoir l'argent pour se payer justement ces démarches judiciaires-là. Donc, c'est les deux types qu'on pouvait voir. Donc, la séparation de biens, il y en a eu. Mary Patterson, c'est pas la première à l'avoir faite, mais dans les circonstances, en fait, je me demande pourquoi elle l'a fait, surtout, et pourquoi elle l'a fait à cette époque-là. Donc, tu sais, c'est quand même quelques années après la mort de son père. C'est peut-être pendant le temps que George Benson Hall avait des problèmes financiers. Pourquoi je pense ça? C'est parce que on a beaucoup, beaucoup de lettres qui ont été gardées de George Benson Hall au séminaire de Québec. Pourquoi? George avait un côté de la chute, techniquement, et puis le séminaire de Québec avait l'autre.
Ah, oh, on est arrivé, là, à la petite chicane par rapport à la chute.
La chicane de clôture.
La chicane de clôture.
Oui, on est rendu là, parce que ça s'est passé du temps de George Benson Hall, sincèrement, parce que c'est... Bon, même si c'était techniquement Mary Patterson, c'est pas elle qui a dirigé la série, c'était Benson Hall. Puis Benson Hall, en fait, il voulait son bout de chute. Et le séminaire voulait son bout de chute. Puis ça a été compliqué. Ça a pris plusieurs années. Puis là, encore une fois, de ce que j'ai compris, c'est que finalement, George Benson Hall a fait « OK, je vais l'acheter, votre bout de chute. » Je vais lâcher votre bout de chute que vous... Tu sais, parce que le séminaire disait qu'il y avait un côté du bout de chute du côté de Beauport qui était à eux. En tout cas, bien compliqué. Encore une fois, on peut vous mettre un email en annexe. Mais finalement, George Benson Hall a fait « OK, c'est beau, là, je vais la payer. » Mais il a écrit plusieurs fois de « Oh, on peut-tu faire un retard de paiement un peu plus tard? » Donc, c'est-tu parce qu'il y avait des problèmes financiers? C'est-tu parce qu'il y avait une faillite? Bon, tu sais.
Peut-être qu'il voulait juste les...
Ouais, les faire suer.
Ouais.
Peut-être rajouter un petit drama à la Jane Austen.
Mm-hmm.
Il faut un homme ecclésiastique, si on fait du Jane Austen. Donc, peut-être. Mais malheureusement, Benson Hall est décédé avant de pouvoir compléter la transaction. Donc, on rajoute une couche de complexité à l'histoire parce que là, les fils de Benson Hall et de Mary Patterson ont décidé de ne pas poursuivre la transaction. Bref, donc, c'est vraiment complexe là, comme temps. Puis vraiment, puis aujourd'hui, quand tu regardes le terrain de la chute, tu sais, tous les lots dans les cadastres, on en a des dizaines. Parce que justement, on a toutes ces transactions-là qui datent de vraiment longtemps. C'est assez bordélique, assez difficile à comprendre.
Mais pourquoi, par exemple, ses fils n'auraient pas voulu reprendre la transaction?
Parce qu'il y avait l'héritage de leur mère et de leur père. En fait, tu sais, Benson Hall est décédé en 1876 et Mary Patterson est décédée en 1881. Donc, Mary Patterson a été légataire universel des biens de Benson Hall pendant quelques années, mais elle était quand même d'un certain âge. Ben, un certain âge. Elle est décédée à 56 ans, là, c'était pas... Mais elle avait trois fils qui étaient majeurs à l'époque. T'sais, elle avait quand même 8 enfants. Donc, ces fils-là ont repris, finalement, toutes les compagnies, toutes les possessions terriennes, parce que la chute, c'était pas la seule qu'il y avait. Là. C'est juste vraiment la pointe de l'iceberg. Là. C'est là qu'on voit beaucoup, parce que c'est la fin de l'exploitation forestière, mais c'est qu'une partie. Donc peut-être qu'ils s'en contrefoutaient un peu là, de la pointe du bout de la chute qui est supposée d'appartenir au séminaire. Ils ont peut-être fait comme « Hey, gardez-la! »
Ouais, OK.
Tu sais... Puis, surtout qu'à cette époque-là, les Price étaient rendus dans la famille des Patterson parce qu'une des filles de Mary Patterson a marié un Price. Fait que là...
Ah, fait que là, les problèmes financiers sont vraiment loin. Là.
Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je pense pas que... Je pense que c'était plus vraiment une chicane de clôture, là, de qui avait raison. Parce que je pense pas qu'il y avait de problèmes financiers, là. dans la famille, surtout quand les Price s'en sont mêlés. Je pense pas que c'était ça.
Puis les séminaristes, eux, est-ce qu'ils avaient besoin de la chute pour quoi que ce soit? Est-ce qu'il y avait un moulin à faire tourner ou c'est vraiment eux aussi parce que c'est beau puis on la veut?
Ben, ça reste de l'eau, ça reste, c'est une ressource. Mais tu sais, Benzona louait une rivière qui était à Beaupré du séminaire. Peut-être que le séminaire voulait faire la même chose. C'est ça, vraiment, en ce moment, je suis vraiment pas assez approfondie dans la recherche pour vraiment comprendre ces petits détails qui vont peut-être vraiment apporter vraiment une réponse. À la fin, on se reparle dans 2 ans.
Avec grand plaisir.
À suivre. Mais vraiment, donc, cette époque-là, proto-industrielle qui amorce le pré-industriel de la chute est vraiment... je trouve super intéressant parce qu'on est vraiment dans un genre d'anachronisme d'une période seigneuriale et d'une période industrielle. Donc, Peter Patterson a été seigneur et a été industriel, donc homme d'affaires, comme on voit à l'époque pré-industrielle, mais en étant seigneur. Et il faut le retenir, sa fille a aussi été seigneuresse. C'est ça, faut pas l'oublier, Mary Patterson a été techniquement une des dernières seigneuresses de Beauport avant l'abolition officielle des seigneuries en 1856.
Donc les fils de Mary Pat, eux, ils sont pas devenus seigneurs.
Non, mais ils ont vendu la seigneurie. Puis si on rentre dans vraiment la complexité de l'abolition seigneuriale, je vais vous conseiller lecture de Benoît Grenier si vous voulez en apprendre davantage sur les technicalités de l'abolition seigneuriale au Québec. Mais oui, après, il y a eu des transactions, mais ils sont pas devenus seigneur. Mais Mary Patterson a été seigneuresse du temps que c'était pas encore aboli. Donc, okay. Tu sais, tout ce qui est de vraiment être seigneur avec une relation de pouvoir un peu... bon, à l'époque, on n'est plus dans comme le début de la Nouvelle-France où le pouvoir... Mais ça reste quand même que c'était un titre, une position de pouvoir, et Mary Patterson l'a été.
Okay.
Puis, des fois, dans les livres, on voit... Seigneur de Beauport, George Benson Hall, son mari.
Puis ça, c'est pas vrai, non?
C'est pas vrai. Mais encore là, faut voir la technicalité de l'acceptation du testament de Patterson. Donc, tu sais, ça va prendre plus d'analyse pour être certain de la réponse. Mais vraiment, cette famille-là a fait des choses à la chute. C'est pas comme, par exemple, Frédéric Haldimand, que oui, il a construit un manoir, mais il est resté 3 ans. Tu sais, Patterson... à son décès, il y avait tant les séminaristes catholiques qui étaient là, tu sais, que plein d'autres mondes parce qu'ils s'étaient impliqués dans la communauté. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment fascinant. Finalement, c'est l'anachronisme de la chute à cette époque-là qui est intéressant, d'après moi.
Ouais, de vivre sur deux temporalités en même
vraiment,
temps.
Vraiment! Deux temporalités et deux niveaux. La chute, tu sais, c'est ça. Souvent, je l'ai lu juste comme ça. La chute, oui, c'est le manoir, mais c'est en bas. Puis, c'est vraiment séparé. C'est deux mondes complètement. Oui, il y a la chute, mais il y a manoir et bas, qui n'est pas la même chose.
Puis, c'est au bas de la chute que les industries en tant que telles, à la période industrielle, vont se développer.
Oui, vraiment. Vraiment, là. Donc, tu sais, après l'installation, c'est comme Patterson et Benson Hall, on va lui donner, excusez-moi, là, on sépare l'émotivité de la recherche, mais Benson Hall, pour l'instant, je le porte moins dans mon cœur. C'est pas parce qu'il est ontarien, mais c'est plus parce que on sait pas trop ce qu'il a fait avec l'héritage de Mary Pat. Mary Pat, ok, comme je vous le dis, c'est ça, mes surnoms. J'espère que tout le monde me comprend, sinon je m'excuse profondément. Mary Patterson, je m'excuse si tu écoutes.
Mais... J'avais appelé Mary Pat depuis le début du podcast.
C'est ce que j'avais remarqué aussi.
Mon Dieu, ouais. Donc tu vois, moi ça m'est passé 3 pieds sous la tête, puis...
Tu déteins sur moi, donc...
Parce que, oui, c'est ça, Rose, c'est pas la première fois qu'elle m'entend parler de... des Mary Pat. Mais, donc, vraiment, cette famille-là a vraiment créé les fondations de la chute. Tu sais, vraiment, la fondation industrielle. Puis c'est après ça que d'autres industries se sont installées sur les bâtiments que les Patterson ont créés. Parce que quand, tu sais, Benson Hall puis Mary Patterson sont décédés puis que les enfants ont repris, ben là, c'était plus juste la petite scierie au pied de la chute au du début, là. C'était des scieries, des installations. Il faut pas oublier que ces installations-là, en fait, amenaient du monde près de la chute. Ça amenait des ouvriers qui étaient français, qui étaient catholiques, qui étaient irlandais. Donc, c'était une autre, en fait, une autre bulle sociale qui est arrivée près de la chute, qui a formé aujourd'hui ce qui est connu comme étant Saint-Grégoire de Montmorency. Donc vraiment, au pied de la chute. Donc, encore une fois, plusieurs bulles sociales différentes et la chute. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les fils de Mary Pat, quand Mary Patterson est décédée, sont restés un peu au manoir, mais ont commencé à vendre en bas. Donc, à louer, puis ensuite à vendre. À deux industries en particulier, là, qui ont formé par la suite deux industries, parce qu'on le sait, bon, on est vraiment là, au tournant du 19e siècle, puis c'est début du 20e, puis les compagnies changent de nom et font des refontes à chaque 2 ans. Mais en gros, deux industries se sont installées. Une industrie qui voulait faire de l'exploitation hydroélectrique à la chute et une autre qui voulait faire une exploitation textile.
OK.
Ouais. Puis l'exploitation hydroélectrique a juste repris les installations que Patterson avait repris au début. Là. Donc, je vous ai parlé de la dalle d'amener d'eau. Mm-hmm. Ils ont fait la même chose. Ils ont mis du béton. Et puis comme ça, la conduite d'eau pour faire de l'hydroélectricité était faite.
OK. C'est une compagnie qui est comme à l'origine d'éventuellement Hydro-Québec?
Pas à l'origine, qui a été rachetée, en fait, compliqué, mais ça a commencé en étant la compagnie d'électricité de Québec. C'est devenu la compagnie d'électricité de Québec et de Lévis. C'est devenu plein d'autres choses. Par la suite, ça a été racheté par la Shawinigan Power. Puis ensuite, oui, c'est devenu Hydro-Québec. Donc, encore aujourd'hui, il y a des terrains à la chute qui appartiennent à Hydro-Québec. Mmh.
Ben, le barrage, il n'y a pas un barrage
au-dessus
de la chute, justement?
Qui a été construit en premier en 1885. Donc, puis qui est encore celui de 1885. Donc, si vous allez au-dessus de la chute, vous allez voir des cracks dans le barrage qui sont complètement normales. Ben, normal. C'est des cracks. Mais, en fait, l'ingénieur qui s'occupait de ça, là, maintenant, il est retraité, ce monsieur, mais Antonin Zaruba, c'est lui qui s'occupait vraiment de regarder ces cracks-là dans le barrage qui a été construit en 1885 au début, finalement, du béton. Donc, c'était du béton un peu expérimental. Puis, vraiment, on voit aujourd'hui comment ils craquent. C'est à cause de comment ils ont mis le béton en 1885. Puis, monsieur Zaruba, en fait, appelle ça la cracologie parce que ces cracks-là grossissent à chaque année. Puis, poussent sur les deux côtés de la chute. Mais en fait, Hydro-Québec tient vraiment des études serrées sur qu'est-ce qui se passe. Puis pour l'instant, tu sais, ça bouge, mais c'est quand même solide. Là. Donc, vous allez à la chute, le barrage ne va pas vous tomber dessus.
Est-ce que le barrage crée encore de l'électricité?
Non. Non, plus maintenant. Mm-hmm. Mais vraiment, ces installations ont changé. Donc, si vous allez aujourd'hui à la chute, puis vous prenez le pont, vous allez voir vraiment un bâtiment qui a besoin d'un peu d'amour sur le côté. Puis ça, c'est aujourd'hui la prise d'eau. C'était à l'époque la prise d'eau.
Mm-hmm.
Bon, la prise d'eau a commencé en bois. Puis ensuite, elle est devenue en béton. Le barrage a été construit. Donc vraiment, les installations se sont adaptées à l'époque plus industrielle de la chute. Donc vraiment à l'époque d'hydroélectricité. L'autre compagnie, c'est une compagnie de textile qui a été fusionnée avec une autre compagnie pour finalement devenir la Dominion Textile. Qui est quand même très connue, là, la Dominion Textile, qui avait plusieurs installations.
Oui, il y en avait une aussi dans Saint-Roch, hein?
Ça, c'est la Dominion Corset. Il y avait une Dominion Textile à Sherbrooke aussi.
OK.
Mais vraiment, c'est à l'époque où l'exploitation textile est vraiment très populaire à Québec. Puis vraiment, donc, encore une fois, là, les ouvriers de Saint-Grégoire de Montmorency à côté, ben, ont eu de la job. Puis plus les industries grossissaient, plus Saint-Grégoire grossissait. Puis aujourd'hui, vous n'allez pas voir Saint-Grégoire parce qu'il y a eu une autoroute.
Saint-Grégoire n'existe plus?
Oui, il existe encore, mais maintenant c'est annexé. Puis c'est plus ce que c'était. Le Saint-Grégoire de Montmorency, c'était un petit village collé au fleuve. T'avais des quais, t'avais des bateaux, t'avais la Dominion, puis t'avais la centrale. Puis vraiment, c'était une bulle ouvrière. Qu'est-ce qui se passe avec le manoir pendant ce temps-là? On est vraiment là au tournant du siècle, on est en 1900-1910. Ben, le manoir est acheté par la compagnie d'électricité au pied de la chute pour faire de l'argent. Mais comment faire de l'argent avec cette belle maison ancestrale qui a été résidence de Frédéric Haldimand et d'un prince de la royauté britannique, la transformer en hôtel? Donc, ça devient le Kent House. Pourquoi le Kent House? avec mon accent, Kent House, parce que c'était, en fait, on avait une demande touristique, mm-hmm. et son nom, c'est pour le duc de Kent.
Mm-hmm. Le mari de la princesse Louise.
Édouard Augustus. Non.
Ah!
Oui.
Ben, c'est peut-être, ça a été Édouard oui. Augustus.
Après.
Puis après, okay, ça, quand il est mort, parce c'est devenu,
que, en tout cas, okay, oui. les duchés sont transférés, mm-hmm. changent pas, mm-hmm. mais à l'époque, c'était Édouard Augustus. Mm-hmm. Puis vraiment, là, tu regardes les billets de tramway de l'époque, puis, tu sais, le marketing autour de la chute, c'était, tu sais, venez dormir à la chute Montmorency, dans la maison où le duc de Kent a vécu avec sa maîtresse.
Oh!
Donc, c'est pour ça qu'Édouard Augustus a vraiment pris une place assez immense, tu sais, dans l'histoire de la chute, parce que pendant vraiment longtemps, ça a été le Kent House. Puis c'était très anglophone. Donc, encore là, deux mondes à la chute. En bas...
Les touristes étaient anglophones aussi. Je yes. veux dire, c'est les anglophones qui ont yes. l'argent pour voyager.
Vraiment, là. Donc, c'était les Américains et les Britanniques mm-hmm. qui étaient en haut de la chute. Les employés étaient franco. Puis vraiment, c'était presque une ségrégation. C'est quand même un mot fort, mais les Canadiens français pouvaient pas tant rentrer sur le site, à part quand tu étais employé. Parce que, bon, tu sais, c'était pas juste l'hôtel, là. Il y avait un zoo en face. Aujourd'hui, le parking.
Où il y avait peut-être des chevreuils.
Oui, peut-être.
Mais sœurs de Virginie, en fait. C'était... Il n'y a jamais eu de chevreuils.
Non, mais les chevreuils ont peut-être été importés.
Ah, oh, importés de France.
Non, mais...
Hop, là, lui, ce serait celui que la reine Victoria...
Mais il faut dire qu'il y avait des problèmes d'apport d'animaux au zoo.
Ah,
parce
ben
que
oui.
c'était pas juste l'hôtel qui s'occupait du zoo, c'était aussi la... Puis là, je vais débaptiser, là, j'ai la misère à le dire, mais Old Renfrew.
Ah, oui, ce nom-là est difficile à dire.
Oui.
Renfrew?
Ça?
Renfrew?
Old Renfrew. Old à l'hôtel, Renfrew. Ouais, à l'hôtel où moi j'ai travaillé, il y avait une chambre qui s'appelait comme ça, puis à toutes les fois, j'étais comme... Mm-hmm. Je me souviens pas c'est quoi le numéro, ouais. mais c'était juste le numéro de la chambre, je parlais pas du monsieur.
Mais cette compagnie
ouais.
avait le zoo. Mais que faisait cette compagnie? C'est-tu Rose?
Non.
Surtout, ben, c'était des manteaux de fourrure.
Oh mon Dieu!
La cruauté! Oh mon Dieu!
Donc, ils prenaient des animaux du zoo pour faire des manteaux de fourrure.
Ça, on le sait pas.
Ça, c'est... Impossible!
Mais je te jure, c'était cette compagnie-là qui s'occupait.
Mais oui! Old Renfrew, ils ont vendu des manteaux de fourrure jusqu'à vraiment récemment. Il me semble que ça fait pas longtemps. C'est comme une compagnie un peu comme la baie du Thon, là, qui est comme éternelle, mais ils ont fermé, je pense, récemment.
Ben, c'est comme si la baie avait un zoo.
Complètement choquant.
Donc... C'est comme si la baie avait un zoo de castor.
Ah, oh, you mean la Nouvelle-France.
Mais il y avait des castors à la chute. Il y avait des bisons.
Ah, c'est eux qui ont construit le barrage.
Ah, c'est castors.
Oui, exactement, frère.
Il y avait des
C'est pour ça qu'il y a des cracks.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils ont mal fait leur job quand même. Hein.
C'est un seigneur. Mais oui. Donc, il y avait vraiment un zoo, puis il y avait aussi un golf, il y avait un théâtre d'été, c'était vraiment un endroit touristique, puis il y avait même des forfaits avec le tramway, tu sais, pour se rendre.
Mais oui.
Ça coûtait 25 sous pour la journée.
Quelle aubaine.
Donc, tu sais, jusqu'à quel point, je pense que les Canadiens français pouvaient rentrer sur le site, mais de ce que les gens m'ont dit, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui viennent nous voir, qui viennent nous témoigner que il y a même un monsieur dernièrement, Jacques Mathieu.
Oh!
Un historien quand même assez... qui a fait une très belle carrière, qui est venu me dire que lui, il a grandi à Courville, donc juste à côté, là, c'est la... Mm-hmm. C'est la Courville, c'est Beauport, mais à l'époque. Puis que lui, son ami, son père, était gérant de l'hôtel. Puis il me dit vraiment, Jacques Mathieu me dit, moi, je suis dans les chanceux qui pouvaient rentrer à l'hôtel. Moi, je rentrais à l'hôtel, puis j'allais voler des sous dans Fontaine. Puis c'était le fun. Puis quand il me dit, vraiment, lui-même me dit, là, je suis chanceux qu'il pouvait rentrer à l'hôtel. Ou par exemple, dans une visite guidée, il y a déjà de cela 3 ans, il y a une dame qui me dit, en plein milieu de la visite, quand je lui parlais d'hôtel, elle a dit, « Hey, j'ai des photos de mes parents devant l'hôtel. » Mais devant l'hôtel, puis c'était une madame d'un certain âge, hein, devant l'hôtel parce que ben mes parents pouvaient pas rentrer dans l'hôtel.
Ben voyons.
Donc c'était vraiment une époque spéciale, puis vraiment encore là deux mondes, donc époque industrielle et cette époque touristique là hôtelière qui a duré quand même longtemps. Donc l'époque hôtelière a duré jusque dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50? Gros résumé. Construction de l'autoroute au pied de la chute.
Ah! Donc, ça gâche quand même, là.
La dynamique touristique change. Puis personne ne veut d'un hôtel qui fait putain d'argent.
Mm-hmm.
C'est qui achète l'hôtel? Les Dominicains.
Les frères dominicains?
Yep.
Mon Dieu, mais tout ce temps-là, c'est les religieux qui ont gagné, finalement.
Oui, après autant de temps, ils sont allés devant la tombe de Bensonard, puis ont fait... Mais non, les Dominicains ont acheté, puis Georges-Henri Lévesque, qui est à la tête des Dominicains à l'époque, voulait vraiment une place d'ouverture pour pouvoir parler librement des idées politiques, sociales, philosophiques, universitaires. Eux aussi accueillir tout le monde qui voulait venir au manoir. Puis ça a été ça pendant 10 ans. Donc un 10 ans assez spécial. Il y a des photos, par exemple, de Dominicains qui jouent aux cartes devant le manoir.
Intéressant.
Ouais, on peut la mettre en annexe.
Tout à fait.
Ils jouaient à quel jeu?
C'est une bonne question.
Faudrait savoir.
Faudrait savoir. Mm-hmm. Ou, par exemple, la boutique qui est encore à la même place aujourd'hui, la boutique de l'hôtel qui vendait des crucifix et autres choses religieuses. Bon, aujourd'hui, on vend des petites tasses.
Des petites cuillères aussi.
Oui. Mais donc, c'était vraiment... Oui, les petites cuillères roses. Oui, parce que...
Oui, mais j'ai déjà vu une petite cuillère, là, c'est pour ça que j'ai fait une intervention, je voulais être sûre qu'on en parle, elles sont très belles.
Oui, parce que, en fait, j'ai acheté pour le copain de Rose, bonjour une Sam, une cuillère de la chute que Sam a chez lui, pour en témoigner. On peut même mettre la photo de la cuillère en
j'aimerais
annexe.
J'aimerais l'avoir en annexe, oui, effectivement. J'aimerais avoir la cuillère, en fait, pas une photo.
OK, ben, écoute, à chaque personne qui va vouloir écouter le podcast, on va vous l'envoyer par la poste.
C'est bon.
Ouais.
Mais non, ça va coûter très cher d'envoyer des cuillères à tout le monde par la poste, on est trop pauvres.
On va trouver un moyen de moyenner, on va l'encadrer dans l'assaut.
Voilà, donc venez au 0209 dans le pavillon de Coninck à l'Université Laval et vous pourrez voir une petite cuillère de la chute.
On pourrait même recréer un zoo dans le local de la soupe.
Où trouver les manteaux de fourrure
de Holt Renfrew. T'as voulu de le dire comme il faut, mais pas comme il faut en fait.
Mais revenons aux Dominicains.
Oui, les Dominicains.
Ça, c'est weird. Pendant 10 ans, ils ont eu le manoir, puis pendant le temps qu'ils ont eu le manoir, il y a eu vraiment une panique. En fait, là, ils ont même fait une entrevue à Radio-Canada, je pense, sur Georges-Henri Lévesque. Il y a quelqu'un qui l'a interviewé, qui est, si je me trompe pas, Judith Jasmin. Donc, vraiment, quand même, une personne assez importante de la télévision québécoise. Et puis, ils ont vraiment demandé, ben là, les gens, vu que vous vous installez ici, là, les Dominicains, est-ce qu'on va pouvoir aller à la chute? Qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, tout le monde était, tu sais, c'était bien ouvert, puis c'était
disant. C'était même plus ouvert, finalement.
C'était très ouvert. Oui, mais tu sais, jusqu'à quel point c'était plus ouvert le manoir, bonne question, parce que c'était quand même la résidence des frères, des Dominicains. Puis ça a duré 10 ans, mais après 10 ans, c'était quand même, c'était un gros manoir, c'était un gros site à entretenir, donc ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a refait un hôtel.
C'était qui était premier ministre à ce moment-là, tu sais-tu?
On est dans les années 60.
Genre
64. Ouais. D'après moi, oui.
Jean Lesage? Ouais. Maurice Duplessis était parti.
Ouais, il était parti, là, donc... Donc, ayez pitié de nous si vous nous écoutez sur...
Visiblement, on n'est pas des fans des premiers ministres québécois.
Ouais. Parlez-moi des petites cuillères à la chute.
Ça va, mais
les premiers ministres, mais oui, donc ils l'ont vendu quand même à bas prix.
OK.
Vraiment. Puis après ça, bon, c'est redevenu un hôtel, le Kent House.
OK.
Et revenu.
Est-ce que c'est toujours un hôtel, le Kent House?
Non. En fait, là, malheureusement, c'est plus un hôtel depuis que ça l'a brûlé.
Ah, c'est vrai, ça a brûlé en 1993, oh, on en a parlé tantôt.
Donc, plot twist. Bel et bien Jean Lesage.
Donc,
bingo. Ouais.
Bel et bien Jean Lesage à l'époque de la transaction du manoir. Puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un hôtel jusqu'en 1993 où que ça l'a brûlé. Puis là, encore là, il y a comme un peu du drama autour de ça parce que Le Soleil, à l'époque, là...
Le journal Le Soleil.
Oui, oui.
Pas l'astre. Tout tourne autour de la chute, même le soleil.
En fait, là, dans l'astrologie, là, vous pouvez même avoir une chute montante. Excusez-nous. Je pense que c'est en fait le... Il est juste 9h07, puis on est...
Puis on est au début de la session encore, donc on peut même pas blâmer nos études.
On peut
études
même pas dire que c'est l'étude,
mais... Ah, moi, je les blâme entièrement.
Parfait.
Blâmons-les.
Blâmons les études sur le fait que je suis désolée si on parle de cuillère et de chute montante. Mais pour tout dire.
À l'astre, le soleil.
Ben oui, le périodique. Le périodique, le soleil, qui vraiment. Bon, on connaît le périodique, le soleil. Mais qui à l'époque dit que c'est peut-être vraiment un acte criminel. Le feu de la chute, du manoir Montmorency. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que le manoir, quand il se fait rénover, parce que c'est vraiment à suite et pendant des rénovations que le manoir a brûlé, il y a des gens qui étaient contre, en fait, les rénovations parce que le manoir n'est pas encore protégé par le patrimoine et brûle. Puis il y a des gens qui se disent, oh, c'est peut-être criminel. En fait, finalement, problème électrique dans le toit, qui est la version officielle. Et puis, donc, après ça, a été reconstruit, mais pas complètement. Donc, toute la partie des chambres d'hôtel n'ont pas été reconstruites. Puis, heureusement, on a beaucoup de photos, tu sais, il y avait beaucoup d'iconographies, de plans qui sont encore à la BNQ, donc ça a été facile de reconstruire l'hôtel, okay, comme c'était environ dans les années 10. Donc, puis, c'est devenu le manoir qu'on a aujourd'hui, qui est plus un hôtel, mais qu'un espace de réception. Donc, oui, ça appartient au gouvernement. Aujourd'hui, ça appartient à la CEPAC. Donc, vraiment, à partir de 85, là. 1985, ça a été à la CEPAC. Et puis, à ce jour, c'est encore à la CEPAC. Aujourd'hui, protégé par le patrimoine.
Est-ce que la tyrolienne, il y a une tyrolienne qui part du haut de la chute vers la base, est-ce qu'elle aurait été installée pendant la période des hôtels?
Non.
Oh.
La tyrolienne qui s'en va d'un côté à l'autre de la chute.
Ah, d'un côté à l'autre?
Oui. Ça serait trop
extrême. Fermée quand je suis allée, fait que...
Ça serait trop extrême, d'après moi, descendre la chute, mais en 2014.
Ah, mon Dieu, c'est récent!
Tout nouveau, tout beau. Ouais.
Ouais, moi, je me souviens de l'ouverture de la tyrolienne.
Bon, OK, Rose.
Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que c'est ça, les gens de Québec.
Ouais, c'est ça. Fred et de Gatineau, juste pour vous dire.
Excusez. Mais tu reviens à Gatineau aussi, là, à travers du Canada.
À travers. Oh, mais c'est le fun, ça. Mais nous, notre chute traverse juste.
C'est notre chute, elle traverse.
Moi, je m'identifie à la chute Montmorency, Rose. Des fois, je dis ma chute.
OK.
Mais
là, je pense que tu voulais parler de la tyrolienne, par exemple. Yes. Qui traverse. Bon, la chute.
Mais j'ai dit quoi?
T'as dit que la chute traversait.
Hey, plot twist, la chute traverse la chute.
Oh,
ok,
ouais.
Je suis désolée, on...
Qu'est-ce que traverse la chute?
La tyrolienne? La Old Friend View. Non, attends. C'est la reine Victoria qui est dans la tyrolienne qui nourrit un chevreuil.
Ah oui, c'est ça!
Avec un bison du zoo de la Old Friend View, qui est devenu un manteau.
Ça a beaucoup plus d'allure.
Wow. Sincèrement, j'insère ça dans mes visites guidées. Mm-hmm. La prochaine, en fait, qui est demain. Mm-hmm. Moi, je dis ça.
Oui.
Puis je vais vous mettre en annexe la vidéo de moi qui fait ma visite et qui dit ça à ma clientèle américaine à suivre. J'ai hâte. Pour tout dire, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, la CEPAC a le manoir. Puis le manoir Montmorency, le parc de la chute Montmorency, c'est un des seuls sites touristiques. Donc, on est protégé, mais on n'est pas un site protégé, là, comme en mettant des réserves ou des territoires naturels. On n'a pas les mêmes missions, même si notre mission première en ce moment, c'est la revalorisation du patrimoine, tant naturel que historique, mm-hmm, archéologique, et matériel qu'immatériel. Donc, par exemple, la légende de Dame Blanche, c'est immatériel, puis ça reste dans notre, mm-hmm, devoir de la mettre de l'avant, puis de permettre aux gens de connaître finalement toutes les facettes de l'histoire de la chute, de ma chute, de la chute. En fait, la chute, c'est la chute à tout le monde. Tout le monde a une histoire par rapport à la chute. Quand tu habites près de la chute, t'as tout le temps une anecdote à compter. Soit que c'est t'allais là quand t'étais jeune, ou par exemple, moi, j'ai des photos de moi à 4 ans devant la chute avec mes parents, puis là, je fais une maîtrise sur la chute. Fait que, tu sais, dans un sens, c'est ma chute un peu, mais c'est la chute à tout le monde. Ça peut devenir ta chute rose.
Okay.
Ou même toi, Fred.
Merci.
Venez faire la tyrolienne avec un manteau de fourrure.
Faire en bas, c'est ça?
On pourrait demander.
Ouais.
Moi, je dis qu'on offre ça à la direction. Tu sais, dans le plan d'interprétation qu'on doit faire, je vais vous citer puis je vais dire que...
Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut se sentir un peu comme l'eau qui descend la chute, en nous-mêmes descendant par en bas.
Ouais.
Mais là, ça me fait me questionner, par exemple, ça a moins rapport avec ce que vous disiez, mais quand tu parlais de la tyrolienne qui descendait en bas, est-ce que tu voulais parler de... du funiculaire?
Parce qu'on a un téléphérique.
Ah, un téléphérique, c'est peut-être
mais en fait, quand j'ai visité les chutes Montmorency,
la chute,
oui, c'était... tout était fermé, en fait, donc la saison n'était pas encore commencée. Donc la tyrolienne n'était pas en fonction, ni le funiculaire, donc peut-être que je suis en train de mélanger les deux. Puis on ne pouvait même pas descendre jusqu'en bas, c'était fermé, il fallait remonter. En tout cas, il y avait plein de services qui n'étaient pas disponibles, donc je suis peut-être en train de tout mélanger, en effet.
OK. Oui, ouais. Donc, si vous avez des questions sur les services... vous pouvez m'écrire.
Ou aller sur le site de la CEPAC aussi.
Oui, moi, j'offre mes services comme ça.
Mais peu importe, c'est Maïté qui va répondre.
Oui, c'est ça. Mais enfin, il faut mentionner que j'ai travaillé à la tyrolienne. Donc, je peux te confirmer que la tyrolienne me traverse.
De bord en bord.
Oui.
OK.
Oui, j'ai été dessus plusieurs fois.
C'est bon.
Mais oui, donc, des questions, je suis là. La seule chose que j'ai pas faite, c'est de la crème glacée.
Ah!
C'est la seule chose que j'ai pas faite à la chute.
Ben, l'été prochain, Maïté.
Parce que j'ai même reconduit des touristes, là. J'ai fait le taxi à la chute.
Oui, c'est vrai.
Oui. Parce que quand le téléphérique marche plus, ben, on s'organise. Donc, si vous me voyez en pick-up de la CEPAC qui fait des lifts à des touristes, ça va me faire plaisir d'offrir mes services à la chute. Voilà.
Mais en tout cas, sur cette fin chaotique...
je m'excuse sincèrement pour tout le monde.
Sur cette fin chaotique où on parle de tous les services disponibles à la chute
Montmorency.
En
l'autre.
Voilà. Pour vous confondre plus que vous ne l'étiez au début de l'épisode, on te remercie, Maïté, d'être venue. C'était c'était vraiment informatif. Moi, je connaissais pas du tout la période proto-industriel de la chute, ou pratiquement pas. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de dire sur les marches syndicales puis toutes ces choses-là, mais on se reprendra dans 2 ans si
oui, c'est ça. Peut-être ça va être moins chaotique et j'espère que la prochaine fois que je vais être invitée, je vais pas rebaptiser des chansons des Cowboys fringants. Je m'excuse sincèrement pour ça.
Ça va aller. On va s'en remettre.
Je pense qu'on va s'en remettre ou on va juste penser aux maladies de James Wolfe puis on va se sentir bien.
Mieux que James Wolfe.
Assurément. Assurément. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis je pense qu'on va conclure sur une belle petite chanson de Bridgerton. Il faut bien finir.
Merci la gang puis on se revoit la semaine prochaine.
À plus tard!